Chapitre 16. 6h07. Nous avons passé la moitié de la nuit à essayer de comprendre le message que Saad nous a laissé, en vain. Je commence à croire que cette puce n'existe pas et que Saad s'est joué de tout le monde. Les indices qu'il a semés n'ont aucun rapport les uns avec les autres et ils ne veulent rien dire. Si c'était pour rendre la quête aussi difficile, il aurait dû détruire la puce. Amir a fini par s'asseoir contre le mur de son bureau avec moi à ses côtés. Il passe sa main dans ses cheveux, frustré. Il est en train de perdre espoir. Il a fourni tant d'efforts et il a fait tellement de sacrifices pour retrouver cette puce qu'il mérite vraiment de réussir. Je me livre à une lutte intérieure contre moi-même. Une lutte qui me ronge et qui risque de me conduire à ma perte. Il faut que je sache ce que je vais faire quand nous allons la retrouver, car mon choix sera décisif et irrévocable. J'aimerais savoir pourquoi Amir souhaite tant l'obtenir alors qu'il n'a aucunement besoin d'accroître son pouvoir. Je ne sais pas ce qui le motive et c'est ce qui est le plus frustrant. Si je le comprenais, ce serait beaucoup plus simple de prendre une décision. Il a sorti son portefeuille de sa poche et se met à fouiller dedans. Il en tire une vieille photographie qu'il inspecte minutieusement. Je me rapproche et observe ce morceau de papier abîmé qui semble dater de plusieurs années. On y voit un homme de 30 ans maximum, avec un petit garçon souriant assis sur ses genoux, tandis qu'un autre garçon croise les bras en regardant l'objectif, un sourire en coin. L'homme a des cheveux bruns lui arrivant aux épaules, les yeux marrons en amande, un nez droit, des lèvres rosées. Il présente un sourire éclatant qui dévoile une belle dentition blanche. Le petit garçon sur ses genoux est maigrichon, ses cheveux bruns sont en bataille et ses yeux sont d'un vert vif. Il paraît bien plus petit que l'autre garçon. Je remarque qu'il lui manque une dent en haut. Le deuxième garçon a la même chevelure et son visage affiche les mêmes traits que celui de l'homme à côté de lui. On dirait presque la même personne. Dans son regard brille cette lueur d'insolence et d'arrogance que je reconnaîtrais entre mille. J'identifie aisément Amir et Aymen, si jeunes et mignons. Rien qu'en voyant cette photo, on comprend qu'Aymen était le timide du duo tandis qu'Amir était l'extraverti. Cette photo est magnifique. Je dis. Amir pose son pouce sur le visage de Naël qu'il caresse. Son geste est doux, empreint d'une certaine tristesse. Je n'aurais jamais cru le voir ainsi, mais il est clair que son oncle avait une place fondamentale dans sa vie et qu'il lui manque. Dilara nous avait forcés à prendre cette photo quand on était gamin. Comment, Amir? Je me rappelle qu'elle voulait absolument que je monte aussi sur les jambes de Naël, mais je lui avais dit d'aller voir ailleurs si j'y étais. À la mention de Naël, je me crispe, mais ne laisse rien paraître. J'observe le visage de cet homme ayant fait du mal à ma mère, et je me rends compte à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Je ne veux pas reparler de ça à Amir, alors je camoufle ma gêne sous un sourire. « Aymen a toujours été là pour moi », déclare Amir. « Quand Naël est mort, Ousni voulait ma tête et me prenait pour le responsable. Mais Aymen m'a défendu, malgré ses craintes. J'espère que tu es conscient de ne pas être responsable de la mort de ton oncle. Tu étais encore très jeune quand il est mort, et tu n'aurais rien pu faire pour lui. » Je réponds. Il regarde dans le vide. « Quand on grandit dans une famille comme la mienne, l'âge n'a aucune importance. J'aurais dû être en mesure de le protéger. J'ai vécu ces dernières années avec sa mort sur la conscience, et je continuerai de vivre avec pour le restant de ma vie. » Je n'ose pas en dire davantage, même si j'aimerais lui faire comprendre qu'il ne doit pas s'en vouloir. « La mort de Naël est mon plus gros péché », conclut Amir. Le lendemain, Villa Ben Khalif, 17h34. J'étais en train de lire un livre sur le lit de notre chambre quand Amir entre dans celle-ci. Il ferme la porte, puis s'y adosse pour me regarder. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui demande. « J'ai décidé de rendre hommage à Dilara ce soir. Je me sens prêt à le faire. J'aimerais que tu y participes. » Il est enfin prêt à faire son deuil. Il aura fallu le temps. Évidemment. Il risque d'y avoir du monde, me prévient Amir. Si tu ne te sens pas de venir, je comprendrai. Je me lève du lit et me mets face à lui. Il est hors de question que je ne te soutienne pas dans cette épreuve, Il m'observe, puis se fend d'un sourire. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais t'es fascinante. Il rigole et je l'imite. Cette connexion entre nous est exceptionnelle. Je l'aime vraiment plus que tout au monde. 22h37. Je suis aux côtés d'Amir dans le grand salon de la villa. Il me tient par la taille pour marquer notre lien. La salle est remplie d'individus venus rendre hommage à Dilara, même s'ils ne m'inspirent aucune confiance. Amir porte un smoking noir et une paire d'italiennes. Pour ma part, j'ai revêtu une robe de la même couleur m'arrivant aux genoux à manches longues, une cape par-dessus et une paire d'escarpins ébène. Iliane, Josh, Mathieu, Eymen et Erika discutent dans un coin du salon. Les voir tous réunis me réjouit. Un homme s'approche de moi. Il se présente et attrape ma main qu'il baise. Ça me dégoûte. Je retire ma main en vitesse. Amir dégage l'homme d'un seul coup d'œil. Je lui en suis reconnaissante. J'observe la pièce qui a été aménagée pour pouvoir accueillir le plus de monde possible. Presque tous les meubles ont été retirés et des serveurs se pressent auprès des invités. Je remarque un trône en bois massif avec des finitions en or. Le siège et le dossier sont rembourrés et recouverts d'un beau velours bleu, décoré d'un blason avec des loups. Deux têtes de lion ornent les pieds du trône. Il est au centre de la pièce, tout le monde peut l'admirer. Je hausse les sourcils et regarde Amir. « Rassure-moi, ce trône n'est pas à toi. » Je demande.
« Tu veux qu'il soit à qui ? À Mathieu ?»
me répond-il. « Il n'est pas croyable. T'as vraiment un ego surdimensionné. Personne d'autre que toi ne s'offrirait un trône. »
« Il a été sculpté à la main pour moi, par le meilleur artisan d'Italie. »
me précise Amir. « Tu peux m'expliquer ce que tu comptes faire avec ça ?»«
Jouer au roi, ça me paraissait simple à comprendre. »
rétorque-t-il. Je roule des yeux et il s'approche de ma joue, qu'il mordit sous mon petit rire. « Je te laisse un instant, » je lui dis. « Il faut que je me lave les mains. » Je ne l'ai pas fait depuis que ce type a posé ses lèvres sur ma main.
« Très bonne idée. »
Je me dirige vers les escaliers sous les regards des invités. J'arrive à l'étage, entre dans notre chambre, puis je vais à la salle de bain et me lave les mains. J'entends soudain un bruit et la porte s'ouvre. Je suis face à deux hommes du clan d'Ahmed. Je les reconnais. Nassim et Liyad. Je vois dans leurs regards qu'ils m'en veulent. Ils commencent à m'insulter de tous les noms et m'accusent de la mort de l'Arbi. Je n'ai pas le temps de répondre qu'ils me plaquent au sol et se mettent à me donner des coups de pied. J'ai la sensation qu'ils m'en veulent personnellement. Nassim me bâillonne pour m'empêcher de crier. Je tente de me défendre, mais ils sont trop rapides et ils semblent réellement avoir la haine contre moi. Je pousse un cri strident en espérant que l'on m'entende depuis le rez-de-chaussée. Mais ça ne sert à rien. Mon corps se retrouve vite meurtri, j'ai du mal à bouger.
« Ferme ta gueule !»
m'ordonne celui qui me tient. J'attrape ses doigts dans ma bouche et les mords. Nassim me lâche en m'insultant. Il se met à serrer violemment ma gorge. Je lutte pour respirer, mais l'air me manque. Je suffoque et tout saute. J'essaie de lever les mains en l'air pour leur pousser, en vain, puisqu'ils ne daignent pas bouger. Liyad ricane et ne tente pas de le stopper alors qu'il risque de m'asphyxier. Amir a dit qu'il me suivait à l'étage. Je prétends. Il va arriver d'une seconde à l'autre.
Putain,
pestent en cœur mes agresseurs. Il s'enfuit sans délai. Je tousse violemment et me redresse en reprenant mon souffle. J'ai rarement été aussi heureuse de respirer. Je gémis de douleur car mes blessures me font atrocement mal. Chaque mouvement est douloureux. Je me relève en m'appuyant sur le lavabo, je me déshabille avec difficulté et sors le nécessaire pour me soigner. Mon visage va bien, mais mon cou et mon corps conservent des traces de leur passage. Amir déboule dans la salle de bain quelques minutes plus tard. Il me demande
« Qu'est-ce qui t'arrive ?»
J'étais en train de soigner les hématomes qui recouvrent mon corps. Je n'ai même pas le temps de lui expliquer ce qui s'est produit, qu'il enrage comme jamais auparavant en analysant mes blessures. Il me couvre d'un peignoir, me prend dans ses bras et redescend en me portant. Je ne tente même pas de le dissuader d'agir. J'ai trop mal à la gorge pour pouvoir m'exprimer. Et puis, ça ne servirait à rien. Son regard est noir tandis qu'il inspecte l'assemblée.
Personne ne bronche plus. Leurs yeux sont rivés sur nous. Amir s'installe sur son trône au centre de la pièce avec moi, assis sur ses genoux. Je respire difficilement. Je place ma main sur mon cœur pour tenter d'en calmer les pulsations. Je le sens mal. Il écarte le haut de mon peignoir pour laisser voir les traces d'étranglement qui recouvrent mon cou. « Qui sont les ordures qui ont osé frapper ma femme sous mon toit ?» demande Amir sèchement. Pas de réponse.
« Qui ?»
hurle-t-il. Personne ne daigne se dénoncer. Je croise le regard de Nassim et l'Iyad qui restent en retrait. Soudain, il avise les deux responsables dans un coin. Les doigts ensanglantés de celui que j'ai mordu ne lui ont pas échappé.
« Vous deux !»
grogne Amir. Il me pose sur le trône et se relève rapidement. Il s'approche d'eux, sort un couteau de sa poche sans crier gare et le plante dans l'œil droit de celui dont la main saigne.
« Ça t'apprendra à poser tes mains sur ma femme !»
hurle Amir. Tous les invités hurlent sous le choc. Amir frappe alors l'oreille de Nassim avec le couteau, puis il attrape la main de l'Iyad. Il la plaque au sol, l'écrase avec son pied et coupe d'un geste ses doigts. L'homme crie à l'agonie, comme son acolyte. Amir brandit à présent son couteau sur les testicules de l'un, les transperce, puis répète son geste sur ceux de l'autre. Le sang jaillit. Les invités sont horrifiés.
« Personne ne touche à ma femme !»
rugit Amir. Il poursuit ses coups sur le reste de leur corps. Il vise de sorte à ne pas les tuer directement. Il laisse libre cours à sa force barbare, déchaînée. Il n'arrive plus à s'arrêter, même quand les deux hommes ne bougent plus. Ayman réfléchit à une manière de le stopper. Amir mutile à présent des cadavres sans vie sans s'en rendre compte. J'ai envie de vomir. Reviens à toi, mon frère. Supplie Ayman. Amir ferme les yeux puis les rouvre. Il lâche son couteau et s'éloigne des cadavres. Il se relève et se tourne vers les invités. Son smoking est taché de sang, de même que ses mains et son visage. Il lèche le sang sur sa lèvre comme un fou.
J'espère que le spectacle vous a plu,
déclare-t-il.
Sachez que je réserve le même sort à tous ceux qui feront souffrir ma très précieuse femme. J'espère sincèrement que vous vous êtes bien amusés. Maintenant, dégagez de chez moi.
En l'espace de quelques secondes, tous les invités sont partis, sauf Ahmed, qui regarde avec effroi les corps de ces deux hommes mutilés. Amir se dirige rapidement vers mon paternel pour le défier du regard.
J'espère franchement que t'as rien à voir là-dedans. Si j'apprends que t'es impliqué de près ou de loin dans cette attaque, je te ferai avaler tes couilles et te tuerai aussi.
Le prévient Amir. Le manque des seringues commence à se faire ressentir. Il a agi comme un barbare, car il n'était pas pleinement conscient de ses actes.
T'es vraiment un grand malade, répond Ahmed. Tu dois te faire soigner. Comment tu peux sourire après les atrocités que tu viens de commettre?
En effet, Amir semble heureux d'avoir ôté la vie à ces deux ordures qui m'ont terrorisé.
« Me faire soigner !»
se moque Amir avec arrogance.
« Pourquoi faire ? Je vais très bien, rassure-toi. »«
T'es pas humain !» crache Ahmed. « Tu prends trop de plaisir à tuer !»
Amir est conscient que sa soif de meurtre n'est pas tout à fait assouvie et qu'il désire encore ôter des vies. Mais il sait aussi qu'il doit se calmer et reprendre ses esprits pour le bien de tous.
« Tu vas me donner des leçons de morale maintenant. T'es mal placé pour ouvrir ta gueule. »
rétorque Amir.
« Et tu te fous de ce qu'elle pense ?»
demande mon père. Ahmed me pointe du doigt. Je me suis assis sur le trône et recroquevillé sur moi-même, en retrait de la conversation. Je suis fatigué de toute cette violence, de ce sang et de ce monde d'horreur. J'ai vu la mort. Il aurait fallu que quelques secondes de plus pour que je meure d'asphyxie. Je n'oublierai pas leur regard, encore moins celui de Nassim. Il était rempli d'une rancœur et d'une rage sans limite.
« Tire-toi de chez moi !»
ordonne Amir à Ahmed. Ce dernier souffle puis s'exécute. Ayman, dans son coin, comprend qu'Amir veut se retrouver seul avec moi. Il monte à l'étage. Amir fixe ses mains pleines de sang et n'ose pas s'approcher de moi. Il craint de voir la peur dans mon regard. Je ne sais pas ce que je ressens. Mais ce n'est pas de la crainte.
Tu n'avais pas besoin de faire tout ça,
je murmure.
Je devais leur donner une leçon. Que tu le veuilles ou non, tu es à moi depuis que tu portes mon nom. Je n'accepte pas qu'on te fasse souffrir. Ils sont tous prévenus,
réplique Amir.
Nassim et Liad s'étaient déjà permis de te manquer de respect une fois. Je leur ai fait regretter leurs paroles. Ils ont décidé de recommencer. Je ne pouvais pas laisser passer une deuxième fois. Je comprends que ce que j'ai fait est horrible. Je ne tente pas de justifier mon action.
De quoi parle-t-il?
Quand a-t-il croisé leur chemin? Dans quel contexte?
Il fait craquer ses doigts.
Il tente de se reprendre, mais il a perdu le contrôle. Je ne sais pas quand est-ce qu'il le retrouvera.
Je ne veux pas que tu te laisses consumer par cette part de noirceur, Amir.
Je confesse en soupirant. Cette partie de moi ne va pas disparaître par notre simple volonté. Ce n'est pas en allant voir un psychologue que je vais changer. Si j'ai voulu devenir un homme bien, c'est uniquement pour être digne de toi. Tout le reste ne m'intéresse pas,
répond Amir.
Il s'approche doucement de moi. J'enfouis ma tête entre mes bras. Je veux uniquement la paix. Je veux qu'on nous laisse tranquilles et qu'on cesse de vouloir nous détruire. Je ne veux pas qu'Amir perde le contrôle pour me venger. Je refuse qu'il agisse de la sorte.
Kiara,
je relève le menton. Je sens qu'il craint que je le repousse. J'ai les yeux larmoyants. Je veux juste dormir. Je veux qu'on me laisse un peu de répit. J'aimerais qu'on cesse de nous détester.
Est-ce que tu m'autorises à te toucher?
Demande-t-il. C'est la première fois qu'il me demande la permission. Je ne réponds pas, mais le serre contre moi malgré le sang dont il est couvert. Amir hume mon parfum et essaie de se calmer. Il se recule et me couvre d'un regard apaisé.
« Je vais très bien, »
m'assure-t-il. « Je ne te crois pas.
Tu devrais pourtant. »
Il me fixe. Il fait semblant. Il ne va pas bien. Il lutte contre ses pulsions. « Pour combien de temps ?»«
Kiara, est-ce que tu m'aimes ?»
me demande Amir timidement. Sa question me saisit. Je me détourne de lui, par gêne.
« Pourquoi tu es tombée amoureuse de moi ?»«
Je suis un monstre, je me dégoûte, et tu devrais aussi éprouver du dégoût pour moi. Tu penses m'aimer, mais ce n'est qu'une illusion. Je suis une abomination. Je prends du plaisir à tuer. Il faut m'enfermer. Je ne voulais pas être auprès de toi pour ne pas t'imposer cette facette destructrice de ma personnalité. »
Sans prévenir, je lui fiche une énorme gifle qui le secoue.
Mon geste le laisse bouche bée. En temps normal, il s'énerverait, mais cette fois, il est juste surpris. Il fallait lui remettre les idées en place. « Cesse de dire n'importe quoi. Si tu continues de te haïr, là, je ne te le pardonnerai pas. Tu ne me dégoûtes pas. Pour dire vrai, c'est tout l'inverse. Je ne cautionne pas ses actes, mais je compatis à la lutte qui s'opère en lui. Je sais qu'il ne veut pas être comme ça, qu'il veut changer. Je l'aiderai autant que je le pourrai. Je t'aime d'un amour qui défie toute logique, Amir. Il restera toujours des morceaux de toi en moi, même si je voulais ne plus t'aimer. » Amir, mal à l'aise, regarde au plafond. Je peux percevoir des rougeurs sur ses joues.
« Si tu me donnes ton cœur, »
dit-il,
« je te jure de tout faire pour ne jamais le perdre. Si tu me jures fidélité et amour, même la mort ne nous séparera jamais. Si je dois défier le monde entier pour toi, je le ferai sans regret. »
Je pose mes mains sur son visage ruisselant de sang. Mon cœur t'appartient tout entier, Amir Ben Khalif. Son sourire m'offre l'espoir d'un avenir meilleur.
Je ne veux pas être ce monstre pour toi. Tu as fait ressortir ce qu'il y a de mieux en moi,
déclare-t-il. Amir allait passer sa main sur ma joue, mais il s'abstient, réalisant qu'elle est couverte de sang.
Je me charge de me débarrasser des corps,
ajoute Amir. Je hoche la tête. Je sais qu'il veut s'éloigner de moi pour se calmer. Il en a besoin. Je ne dois pas le perturber. Il détourne les yeux quand il remarque que je le fixe.
Il faut que je prenne l'air. Mes pulsions ne sont pas encore freinées, je dois m'isoler un peu.
Je reviendrai demain, m'informe Amir. J'ai envie de lui demander de rester, mais je sais qu'il vaut mieux pour tout le monde qu'il prenne du temps pour lui.
Ne t'inquiète pas pour moi, je reviendrai,
promet-il.
Je reviens toujours, tu le sais très bien.